Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le récap, c'est fac. Pour ne rien manquer des Jeux du Québec. Avec Alex Baillargeon.
Jour numéro 7 des Jeux du Québec en la ville de Sherbrooke. C'est le récap CFA qui débute ce soir pour une avant-dernière édition en ce vendredi. Avec moi autour de la table, je retrouve Vincent Gianjopi. Salut!
Salut Alex, ça va bien?
Ça va super bien, écoute. Ça sera en duo ce soir pour la partie en direct. Par contre, on a quand même nos collègues Jacob et Simon qui nous ont fait parvenir des petits topos, donc on ne sera pas complètement seul.
Oui, je me sens un peu comme un loup solitaire dans le studio, mais très content que tu sois là et j'ai bien hâte qu'on commence ça.
On aura à couvrir notamment l'escrime et le patinage de vitesse, mais toi-même aujourd'hui, tu as vécu pleinement les Jeux du Québec puisque tu étais du côté du hockey féminin. Et d'ailleurs, si vous étiez à l'écoute de CFAQ 88.3 cet après-midi, vous avez pu entendre Yannick Pinard et Vincent commenter les matchs féminins. Comment ça s'est passé, ta participation à la description?
Écoute, c'était la première fois que je faisais quelque chose de la sorte. J'ai adoré mon expérience. Moi, je suis un joueur de soccer à la base, donc j'aurais peut-être été un peu meilleur au soccer. Mais non, franchement, j'ai vraiment adoré ça. L'ambiance était incroyable à nouveau au complexe sportif Thibault-Gemme, au même titre que ça l'était pour les hommes. Et non, Yannick et moi, je trouve qu'on a quand même formé une bonne paire. Yannick, que j'avais déjà eu la chance de côtoyer lors des matchs du Vert et Or de football. Et non, ça a vraiment, vraiment été très plaisant comme expérience.
Super. Écoute, on est, comme je le disais, dans les derniers instants des Jeux du Québec. Demain auront lieu les conclusions, notamment justement à l'escrime, également à la, c'était au curling féminin qui allait avoir remise de médaille demain. Je pense que plongeon, il restait quelques activités également, donc ce sera pour la dernière émission demain. Par contre, ce soir, on va débuter plutôt avec le résumé des dernières qualification pour l'escrime avec Jacob Canville qui nous a préparé un petit topo et une entrevue qu'il a réalisée avec des athlètes de la Rive-Sud.
Ici Jacob Canville, présentement sur les lieux du Cégep de Sherbrooke pour assister à la troisième et avant-dernière journée des compétitions liées à l'escrime aux Jeux du Québec de 2024. Aujourd'hui, ambiance beaucoup plus enflammée que celle d'hier à mes yeux et on sent que les athlètes apprécient le geste et la mobilisation qu'il y a autour de ce sport aujourd'hui. On les sent beaucoup plus engagés et on sent qu'ils ont un petit regain d'énergie. Donc, comme je le disais, compétition individuelle aujourd'hui et par équipe qui sont des qualifications pour les finales qui auront lieu demain, encore une fois, au Cégep de Sherbrooke. Donc, pour ce qui est de nos fiers représentants estriens aujourd'hui, de bonnes performances auxquelles j'ai assisté. Je pense entre autres à Simon Tremblay qui a remporté sa victoire dans un chaud duel, ainsi qu'à Charles Gagnon qui lui aussi a remporté ses deux matchs aujourd'hui. Une belle représentation de l'Estrie, je dirais. On peut être très fiers de nos athlètes locales aujourd'hui ainsi que de leurs performances. Pour ne rien manquer, rendez-vous demain au Cégep de Trois-Rivières où se dérouleront toutes les finales de l'escrime pour tous les types et toutes les catégories. J'ai eu la chance également de m'entretenir avec deux représentants, de la Rive-Sud aujourd'hui, Anna, qui, elle, compétitionnera pour la médaille d'or demain dans sa catégorie respective. Ainsi qu'Arnaud, jeune de la Rive-Sud, là, donc j'ai eu la chance de m'entretenir avec eux. Et deux jeunes qui, ma foi, ont livré de superbes réponses et qui ont clairement une très belle vulgarisation des propos auxquels je leur ai adressé. Donc, on peut aller écouter ça à l'instant. Arnaud et Anna de la Rive-Sud. Je sais que c'est votre première expérience des Jeux du Québec à vous deux. Pouvez-vous me décrire un peu l'expérience des Jeux du Québec en quelques mots?
Au début, c'est vraiment stressant, mais après, ça devient vraiment le fun. Tu te sens vraiment important parce que
tu combattes pour ta rive, pour la rive sud et tu sens encouragé par tout le monde.
Donc, un bon sentiment d'appartenance, j'imagine. Les encouragements doivent être le fun à avoir, surtout quand on pratique ce sport-là. Toi, Arnaud?
Moi, je trouve que c'est un peu comme elle l'a dit, puis qu'on peut voir aussi d'autres personnes qu'on connaît, mais qui sont dans notre club, mais pour d'autres régions, on peut bien encourager. Et quand c'est à notre tour, c'est les autres qui nous encouragent.
Super. Puis vous avez parlé de votre région qui est de la Rive-Sud, justement. Vous êtes tous les deux natifs de la Rive-Sud. Parlez-moi un peu de la préparation que vous avez faite avant les Jeux du Québec. Avez-vous une préparation pour pouvoir arriver préparé pour la compétition, là?
Oui, bien sûr. Moi, au début, j'étais vraiment, vraiment stressée. Et j'ai commencé par courir le matin pour être préparée par l'entraînement physique et tout. Et après, j'ai essayé de me calmer un peu, de bien manger pour être en bonne santé.
Super réponse. Et toi, Arnaud?
Moi, c'est surtout pour la deuxième arme, le fleuret. C'est... avec mon coach, on m'entraînait un peu à chaque cours. Il me promenait de côté, on se pratiquait un peu les attaques et tout ça. Ça, on faisait ça une à deux fois par semaine, puis ça m'a beaucoup aidé.
Super. Puis Arnaud, tu viens de parler du coach, mais si on va un peu plus loin, quel est le rôle de votre coach aux Jeux du Québec et même dans votre préparation?
En fait, le rôle de coach, c'est vraiment important parce qu'il t'aide à gérer ton stress, à comprendre... ta technique et qu'est-ce que tu dois faire. Et en fait, quand il est là à t'aider durant tes combats, c'est vraiment, ça aide vraiment à enlever le stress et que tu comprennes quoi faire.
Ouais, il peut aussi, il nous aide, il y a comme le stress, comme Anna l'a dit. Puis aussi, durant les combats, elle devient, hors des combats, elle devient aussi comme une amie, puis elle joue avec au jeu dans des villages des athlètes et tout ça.
Super. Puis, vous avez parlé un peu d'éléments qui sont stressants. On le sait, le sport, c'est un milieu qui a quand même un peu de pression. Donc, avez-vous des trucs pour justement gérer cette pression-là avant d'arriver à une compétition?
En fait, pour moi, c'est courir parce que je mets la musique et je cours, ça m'aide parce que j'arrête de penser aux compétitions. Puis, comme, ouais, je me sens comme dans ma bulle. Ça aide vraiment. J'écoute beaucoup de la musique. Ouais. Des fois, j'aime ça parler avec mes amis, juste quelque chose d'autre que la compétition, comme entre les combats, ça aide vraiment.
Donc, de ce que je comprends, c'est un peu de se sortir du sport puis de faire un peu d'autres choses pour essayer de penser à autre chose, là. Et toi, Arnaud, est-ce que tu as une méthode pour gérer ta pression?
Moi, je parle souvent à ma soeur qui fait aussi de l'escrime. Puis on se parle ensemble puis elle m'aide à retirer mon stress et tout ça.
Donc, de parler avec ta sœur, c'est sûr que ça doit aider quand même beaucoup, là. Je vais me tourner un peu plus vers toi, Anna, maintenant, pour cette portion de l'entrevue. Comme on en a parlé avant de rentrer en ondes, tu es assurée d'une médaille, donc les médailles qui auront lieu demain. Est-ce que tu peux me décrire un peu le sentiment de fierté que tu as par rapport aux médailles, à la médaille que tu vas remporter, là?
En fait, je me sens vraiment fière de moi-même. J'étais vraiment contente parce que Rive-Sud a encore... une médaille, mais je suis vraiment stressée parce que en individuel, je me bats contre une autre fille de Rive-Sud et c'est vraiment, vraiment compétitif parce que on est tous les deux, on se bat toujours ensemble dans chaque compétition, on se rencontre à chaque fois et c'est vraiment, vraiment stressant. Mais en équipe, je suis vraiment fière, je suis vraiment sûre qu'on va gagner.
Super. Puis est-ce que tu peux dire que le fait de rencontrer une autre personne, une autre fille de la Rive-Sud, est-ce que tu penses que ça va être une compétition amicale ou il va y avoir un peu de déception? Ou comment tu vois ça, la suite des choses, de compétitionner contre ta coéquipière?
Bien sûr, c'est amical parce que c'est sûr que Rive-Sud a première ou deuxième place, mais c'est vraiment compétitif parce que moi et elle, on est vraiment comme une grande compétition et on se rencontre à chaque fois et c'est vraiment compétitif entre nous deux.
Bon, ben super. Bonne chance pour la suite des choses et bonne chance pour ta compétition qui va être demain et à la remise des médailles. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions. C'est super apprécié. Puis on vous souhaite la meilleure des chances et beaucoup de plaisir pour le reste du tournoi des Jeux du Québec.
Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est Simon. J'ai été à la radio à tous les soirs cette semaine, à l'exception de ce soir et demain. Malheureusement, je sais que vous allez tous me manquer, mais Aujourd'hui, je fais un petit topo sur les rondes de qualification du 500 mètres au patinage à vitesse. Donc, en ce vendredi 8 mars, au cégep, proche du cégep de Sherbrooke, il y avait les courses de passage à vitesse qui ont eu lieu et j'ai eu la chance d'assister, c'est ça, que, comme je l'ai mentionné, aux rondes de qualification pour le passage à vitesse du 500 mètres. Donc, 500 mètres, assez expéditif, assez rapide, juste 4 tours seulement. Donc, vraiment, c'est un sprint. Et une chose que je peux dire, si je peux décrire cet événement en un mot, ça serait vraiment explosion. Parce que à 500 mètres, 4 tours, c'est moins de 1 minute. Il faut savoir sprinter et garder son énergie tout le long. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment impressionnant à regarder, même que ce soit les 12 ans ou les 15 ans. Il y a eu des temps assez rapides, je vais en parler plus tard dans mon topo, mais vraiment, c'est un sprint. Et je dirais que c'est une des principales différences entre les 500 et le 1500 mètres. 1500 mètres, tu essaies plus de garder ton énergie et te sauver peut-être pour un sprint à la fin. Mais le 500 mètres, c'était vraiment, en tout cas, surtout de ceux qui ont fini dans le top, c'était vraiment des sprints tout le long et il y avait une avance, plus souvent, une avance assez évidente qui s'établissait dès le début. Mais non, vraiment impressionnant. Donc, je vais commencer avec le féminin, les 12 à 15 ans, vous dire un peu qui j'ai trouvé intéressant, qui j'ai regardé, qui j'ai trouvé excitant. Donc, allons-y. Une chose que j'aimerais dire avant, c'est que Chaudière-Appalaches, Mauricie, Sud-Ouest, Laurentides sont des régions que je revois souvent revenir dans les hauts des courses. Donc, je crois que c'est des villes qui seront intéressantes à voir les résultats. Donc, je n'ai pas encore les résultats. Donc, je suis sûr que ces gens-là vont pouvoir... on a bonne chance pour les médailles. Donc, c'est ça a commencé. J'ai pu voir Charlène Deblois, Chaudière-Appalaches, avec 50.2. Ensuite, de Abby Léonie Ward, Chaudière-Appalaches aussi, avec un temps de 48.8. Donc, vraiment des temps très rapides pour 500 mètres. Inestrienne, elle était championne hier au 1500 mètres, âgée de 13 ans. J'ai pas eu son nom, mais vraiment un nom à regarder pour les courses. Pour ceux à la maison qui n'ont pas le contexte des courses, dans les qualifications, le meilleur de chaque course ou le meilleur temps vont dans les finales A. Et ensuite, il y aura le restant ou deux ou trois des restants des athlètes iront dans les finales B, C et D. Donc, je pense que le but de chaque athlète était de se rendre aux finales A, mais n'ont malheureusement pas eu la chance tous et toutes. Ensuite de ça, j'ai pu voir Jolène Dion, qui est double médaillée à date aux Jeux du Québec, âgée de 13 ans et provenant de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec un temps de 48. Donc, plus l'âge augmente, plus les temps sont plus rapides aussi. J'ai remarqué que c'était le cas. Si je continue un peu, donc c'est ça. Comme je mentionnais, la grosse différence entre les sprinteurs et la longue distance, là, on le voit, c'est une explosion dès le départ et qui se fait garder tout au long des courses. Donc, vraiment, vraiment le fun à voir. Surtout qu'on peut avoir beaucoup de courses en si peu de temps dans une journée. Donc, super excitant. Les âgés de 15 ans, une qui m'a vraiment impressionné, Oliane Dufour, double fois médaillée à date aux Jeux du Québec. Et dans sa course, c'était évident que c'était elle la gagnante. Elle dominait, donc vraiment hâte de voir où est-ce qu'elle finira au podium du 500 mètres. Maintenant, ensuite, allons au masculin, qui aussi super impressionnant à voir. Il y a eu plus de chutes dans le masculin. Je ne sais pas si c'est un esprit plus agressif, mais ou des courses plus serrées, mais des chutes qui, d'ailleurs, me font assez peur. Tu sais, ils vont quand même à une vitesse rapide, font des tournants très proches du sol. Un faux mouvement, t'es rendu sur la glace en te glissant vers le mur. Donc oui, il y a des murs avec des coussins tout au long de la course. Mais même à ça, des fois, je les voyais rentrer dedans, peur pour leur dos, peur pour leur tête. Donc vraiment quelque chose qui te remontait sur ton siège. J'ai d'ailleurs vu une collision entre deux athlètes qui se sont ramassés un l'autre. Un qui a eu une pénalité d'ailleurs et qui a fait pousser l'autre vers la finale A. Donc, eux sont rentrés dans le mur ensemble. Un est sorti debout, il a fini la course. L'autre, ça avait l'air un peu plus rough pour sa part. Donc, vraiment des chutes qui ont pas l'air plaisantes. Donc, je vais aller avec des résultats un peu que j'ai pu observer du côté masculin. Donc, pour les 12 ans, c'était un athlète qui a déjà gagné l'or. J'ai manqué son nom, mais 12 ans, il provient de la région de Laval. Je me suis mis une petite note d'ailleurs. Gardez un œil sur cet athlète, puisqu'il avait vraiment dominé sa course. Ensuite, Rive-Sud, Jeremy Ma, 49.6. Vraiment des temps impressionnants. Je crois que je ferais ça en vraiment au moins 2 minutes. Ensuite de ça, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 12 ans, Dominique Maltais avec 48,8 secondes. Donc, lui aussi, gardez un œil. Maintenant, nous sommes rendus aux 13 ans. J'ai eu son nom de famille, Samson. C'est un médaillé d'or prenant de la Mauricie avec un temps de 45,5. Un des meilleurs temps que j'ai vu aujourd'hui. Pas le meilleur, on s'en vient à ça. Mais vraiment un temps impressionnant. Puis, comme j'ai dit plus tôt dans mon topo, la Mauricie fait partie d'une des régions populaires et qui construit un peu, qui nous donne des athlètes de très bon calibre. Donc, vraiment, j'aimerais ça savoir où est-ce qu'il finit, lui. Ensuite, Chaudière-Appalaches, une autre des régions très puissantes au patinage de vitesse. C'est un dénommé Poirier avec un temps de 46, donc vraiment proche du 45,5, mais super belle course. Oui, j'ai vu une course. C'était une course des 13 ans. Il y a eu une pénalité, puisque je crois bien que la deuxième place avait utilisé son bras pour un peu bloquer la troisième place dans le dernier tour. C'était une course très serrée, ce qui a fait en sorte que l'athlète de l'Estrie est avancé grâce à cette pénalité. Donc vraiment, un crève-cœur pour l'autre athlète qui essayait juste de finir sa course. Mais en effet, dans ce sport, on ne peut pas bloquer les athlètes. Donc, malheureusement pour lui, il s'est fait. Il fera donc les finales B, C et D. Ensuite de ça, nous avons un dénommé La Framboise de la région de Laval avec un temps de 46,8, ainsi qu'un Tanguay, je crois bien, qui est un médaillé d'ailleurs dans ces Jeux du Québec, provenant de la capitale nationale avec un temps de 46,5. Donc, les 13 ans, vraiment des performances très dominantes. Maintenant, pour les 14 ans, un athlète provenant de l'Estrie. Un certain dénommé Pelletier qui a été médaillé hier, si je ne me trompe pas, à la course 1500 mètres. Donc vraiment, on peut voir la dualité qu'ont ces athlètes de pouvoir faire des courses vraiment plus longues, donc trois fois plus longues que ceux d'aujourd'hui et aussi performer. C'est vraiment impressionnant à voir. Donc lui, il a fait, je crois bien... Non, pas le meilleur temps, mais le troisième meilleur temps que j'ai vu de la journée avec 44,8. Super impressionnant. Il était suivi d'ailleurs de l'athlète qui passerait aussi dans la finale A. Dans la famille Petit, prenant des Laurentides avec un temps de 44,7. Donc, vraiment une course... 44,9, excusez-moi. Donc, vraiment une course très, très serrée. Maintenant... un athlète provenant de Montréal qui n'avait pas fait encore les finales A avait un but, était motivé et écoutez, le jeune Rio avec un temps de 45,7 atteindra sa première finale A et aura une chance pour un podium. Vraiment hâte de voir où est-ce qu'il termine. Maintenant, une course que j'ai vue, c'était entre Lac-Saint-Jean et Laval. Les deux athlètes ont fini 44,6 et 44,8. Donc, vraiment une course assez serrée. Et lui qui a fini avec 44,8, il était l'athlète de Laval, participera à la finale A par 0,001 seconde. Donc, a battu un athlète d'une course précédente pour qualifier. Donc, vraiment, c'est un jeu de précision et qui se joue jusqu'à la fin. Je vais passer maintenant à aux 15 ans masculin, qui d'ailleurs m'a introduit à un jeune athlète plus que dominant. C'est un athlète provenant de l'Estrie en recherche de sa 9e médaille aux Jeux du Québec. Donc, un vrai vétéran du sport et de la compétition. Jérémy Bouchard qui a fait le meilleur temps que j'ai vu de la journée dans les qualifications de 43,8, mesdames et messieurs. Vraiment, là, quelque chose de super impressionnant. Un athlète explosif et qui a su garder sa force tout au long de la course. On a vraiment hâte de voir où il va finir. Ensuite de ça, j'ai pu assister à une course où 4 des athlètes étaient tous finalistes aux 1500 mètres hier. Donc vraiment, finale A aux 1500 hier. Donc, c'était vraiment un pool, un groupe assez rempli d'athlètes forts. Vraiment, c'est dommage que pas tous ont pu passer aujourd'hui au finale A. Cependant, ils seront peut-être gagnés des médailles dans les finales B, C et D. Enfin, un autre athlète des Laurentides avec un temps quand même qui m'a beaucoup impressionné de 44,5. Donc vraiment, en conclusion, ce que je peux dire de ce sport, c'est que c'est des athlètes qui savent pousser leur max, vider leur jus jusqu'à la fin parce que 500 mètres, c'est seulement 4 tours et ça se joue entre 40 et 50 secondes en moyenne. Donc, vous comprenez que c'est vraiment un sprint et il n'y a pas une seconde qu'on peut se relâcher, parce que vous allez perdre la course. Et l'ambiance, petit mot sur l'ambiance, vraiment aimé. La foule, dès que la course commence, encourage leur ville, encourage les autres régions et c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment un esprit d'équipe et d'encouragement qui se suit tout au long des Jeux du Québec, dans tous les sports. Donc, c'est vraiment, vraiment beau à voir. Continuez de même, ceux qui vont encourager, c'est beau à voir. Merci aussi au personnel de santé et du médical, parce que c'est une course qui cause beaucoup. Beaucoup. Je dirais qu'il peut causer des blessures plus graves. Heureusement qu'il n'y en a pas eu. Knock on wood, comme on dit. Mais oui, ils sont là. Ils sont instantanément avec l'athlète qui sont rentrés dans les murs, sont présents. Donc, un gros merci à eux. Encore une fois, vous êtes super importants et appréciés aux Jeux du Québec. Et dernièrement, un petit mot à nos bénévoles et à nos personnels qui jugent les épreuves. Sans vous, nous n'aurons pas cette super belle expérience donnée. Hein? Donc, merci beaucoup encore une fois. Et c'est ça. Bonne reste d'écoute de la radio.
Merci à Simon. Bon, pour Simon Swain, pour ce résumé des qualifications. Pour ma part, j'ai assuré la seconde partie, donc je me suis rendu pour les finales. Et Simon avait un bon œil, a réussi à trouver les bons, la plupart des bons patineurs pour les gagnants des médailles d'or.
Ah oui?
Comme j'expliquais hier aussi, les qualifications, règle générale, d'une distance à une autre, ça peut se ressembler. Encore une fois, il y a des gagnants qui repartent avec 3 médailles d'or dans plusieurs occasions. 1 ou 2 médailles d'or, mais il y en a un, entre autres, qui repart avec ces 3 médailles.
Wow.
Autour du cou, dans ceux que, notamment, Simon avait nommé, Stella Rose Cyr, pour les 12 ans féminins, repart avec la médaille d'or. Félix Beauregard, du côté masculin également. L'un des noms, je me souviens qu'il avait nommé Jolene Dion, malheureusement ne s'est pas qualifiée sur le podium à cause d'une chute qu'elle a eue avec une autre favorite. Donc, c'est plutôt Alexandre Martel-Barry qui a réussi à remporter la médaille d'or. Mais pour l'argent et le bronze, c'est Abby Leonie Ward et Maude Perron qui sont montées sur le podium. 13 ans masculin, c'est William Sanson qui est reparti avec la médaille d'or. Malheureusement, notre athlète estrien, lui, a également chuté. Comme il le disait, tu sais, 500 mètres, ça va tellement rapidement, c'est 4 tours de piste et c'est déjà terminé. Donc, on s'accroche, on tombe et c'est malheureusement cuit pour l'épreuve. Donc, ça ne pardonne que très peu. Ali Zoubir remporte pour le 14 ans masculin. Ça a été très serré pour la 3e place, mais c'est Zach Pelletier de l'Estrie qui l'a emporté. Du côté féminin, c'était Eliane Goudreau qui a remporté la Médaille d'or, il y a eu un petit temps mort aussi. Il fallait réparer la glace. Il y avait eu un petit bris juste avant leur course. Pour les plus âgés, les 15 ans, du côté féminin, c'est Zitalie Gravel qui l'a remporté par un photo finish.
Wow.
Donc, ça s'est décidé sur la photo finale. Une distance de patin à peine pour départager Zitalie et Oliane Dufour, que Simon avait relevé également, pour la médaille d'argent. Médaille de bronze, c'est allé à Marie-Félix Guérin. Et finalement, mon triplé en or, c'est Jérémy Bouchard. 10e médaille des Jeux du Québec, avec l'an dernier également.
Et pour cette, Jérémy. Ça.
Pour Jérémy. Dans,
aïe, aïe.
Ben, triplé, 10e médaille au jeu, mais 3e médaille d'or. Donc, pour lui, c'est le 500, le 1000 et le 1500 où il repart avec les médailles d'or et les honneurs.
Quelle
athlète
région,
de l'Estrie.
Athlète de l'Estrie,
c'est
en plus.
C'est le nôtre.
Pour l'argent. C'est vrai que l'Estrie, on s'en vient quand même assez réputé là, pour des bons patineurs de vitesse. Et Jérémy, ben, comment
tout à fait,
visiblement, fait partie de cette gang-là. Hein.
On risque peut-être de réentendre ce nom-là d'ici quelques années. Éloi Paquette pour la médaille d'argent et Justin Duguay qui repart avec la médaille de bronze. C'était également la toute première fois qu'il y avait le relais 2000 mètres mixte qui était proposé cette année. C'est la Mauricie qui est repartie avec la médaille d'or, le Saguenay, la médaille d'argent, et l'Estrie, malgré tout, est repartie avec la médaille de bronze. Capitale nationale complète les quatre équipes qui s'étaient qualifiées. D'ailleurs, Jérémy Bouchard a pu permettre cette médaille de bronze.
Encore lui!
En allant, en disputant la dernière place, c'était très serré avec l'équipe de Capitale nationale. Donc, il a pu faire une petite remontée suffisante pour être capable d'aller chercher la médaille. On s'arrête quelques instants. Au retour, on se tourne vers le hockey féminin avec Vincent pour ton compte rendu. Vous écoutez le récap CFAQ au 88.3.
À faire en prolongation. On amène une contre-attaque du côté de Montréal. Zonon qui s'amène. Oh, fin!
Oh, c'est beau.
Devant le filet. Tire le but! Quel but! Marqué par Keisha Zonon. Wow, il y a du talent dans cette famille-là. On sait que son frère évolue pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Ben là, quel effort individuel. Elle vient de servir une tasse de café, trois laits, quatre sucres, s'il vous plaît. Et c'est de cette façon que Montréal remporte ce match. Quelle fin!
Quel match
quelle
en
fin. Bas! Ah oui, ah oui, ah oui.
Rempli de rebondissements. Wow. Et Keisha Zonon, ma foi!
Des mains magiques.
Wow!
Beaucoup de vitesse, là. Elle a surpris un peu tout le monde.
Une tasse de café à la défenseuse. Ah, une tasse de café à la gardienne.
Je pense qu'elle nous en a servi une également, là, sur la galerie. Wow! Ben, Vincent, écoute, ça prenait un dénouement, ça prenait des gagnantes, des perdantes. Ben, ça a été un match enlevant, là. Un match vraiment disputé, je dirais, en trois temps. Le premier dominé par Montréal, ensuite, à Mauricie est revenu, puis en prolongation, ben, ça a été à gauche, à droite. C'est Montréal, finalement, qui parvient à s'imposer dans ce match, un duel très enlevant.
Un match qui aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Finalement, qui est allé en faveur de Montréal grâce à un next point individuel de Keisha Zonon. On peut pas dire que c'est pas mérité d'un côté ou de l'autre.
Et Vincent, on a eu trois buts là, marqués par une certaine
Tatiana Deblois.
Oui. On a Sévigny également qui a très bien joué. La gardienne de la Mauricie qui est à la tête basse, mais elle n'a absolument rien à s'en reprocher. Elle a eu un très bon match en relève donc à sa coéquipière, la Liberté, donc Amy Wilson. Très bon match. Un bon match de la part des deux équipes. Et de notre côté, ben, on va faire une courte pause et vous revenir ensuite avec la présentation du match.
Petit extrait de ce qu'on a pu entendre sur nos ondes, même ici au 88.3 CFAQ. C'est le récap qui se poursuit des Jeux du Québec. Vincent, tu y étais et puis chaud de lutte pour Mauricie-Montréal.
Écoute, Alex, c'était le match... pas pour la demi-finale, pas pour la finale, pour la 9e place.
Oh mon Dieu!
C'était le match pour la 9e place et les émotions étaient tellement dans le tapis, même pour un match d'une importance quand même moindre comparé aux deux autres matchs là, auxquels on avait... auxquels on pouvait assister là, un peu plus tard dans la journée.
Digne de finale.
Ah, définitivement. Et ben, je vais rentrer un peu plus dans les détails là, pour ce match-là. D'abord, qui opposait Montréal face à la Mauricie. Donc, pour mettre en contexte un peu, l'équipe de Montréal avait perdu son premier match du tournoi 7-2 contre l'Estrie. Donc, quand même, sévère défaite.
Quand même, oui.
Mais avait eu la chance de se reprendre lors de son deuxième match de qualification et de l'emporter de manière assez convaincante, 5-0 face à la Capitale-Nationale. De son côté, la Mauricie avait perdu son premier premier match 3-1 contre les Laurentides, mais avait gagné son deuxième 3-2 contre Lanaudière. On rentre dans le match, Montréal domine complètement la première période, elle est partout sur la glace et se forge une avance de 3-0 en dedans des 15 premières minutes, parce que la première minute durait 15 minutes. Et là, à ce moment-là, Yannick et moi, on se disait, ben voyons, c'est complètement unilatéral là, comme match, unidirectionnel. J'ai vraiment de la misère à voir comment la Mauricie pourrait faire pour revenir là-dedans. Mm-hmm. Ben, deux mots. Tatiana Deblois, on l'a mentionné tantôt. Oui. Tatiana, que j'avais quand même remarqué en première période pour être l'une des seules armes offensives là, de cette équipe de la Mauricie. C'était elle qui s'occupait des sorties de zone. C'est elle qui était capable d'amener la rondelle vers le but. Et même si ça causait pas grand-chose, pas beaucoup de menaces là, pour le but des Montréalaises, c'est quand même elle qui faisait progresser le jeu le plus là, du côté de la Mauricie. Et Alex, elle a marqué un tour du chapeau lors de cette deuxième période. Le vent a complètement changé et finalement, on était rendu à 3-3 après la deuxième période de jeu. Et ce qui était le plus impressionnant, c'est qu'elle a commencé par marquer deux buts. Et là, dans les derniers instants de la période, la Mauricie a obtenu une pénalité. Donc, Montréal était en avantage numérique. Et Tatiana, qui a usurpé la rondelle à la joueuse montréalaise, qui est partie en échappée avec 2 secondes à faire, quelque chose comme ça, a eu le temps de déculoter la gardienne, mettre la rondelle au fond du filet.
Wow.
Et honnêtement, Yannick et moi, on se demandait s'il restait du temps au cadran. L'arbitre accorde le but, renvoie tout le monde au vestiaire. On n'a même pas pris la peine de refaire une mise en jeu pour potentiellement le temps restant. Donc, après la deuxième, c'était 3-3. Finalement, en troisième, la Mauricie est passée, a pris les devants pour la première fois du match. Mais Montréal a répliqué 4-4 et finalement, on est allé en prolongation. Et finalement, ben, avec moins d'une minute à faire à cette prolongation-là, ben, on vient de l'entendre. C'est Keisha Zonon qui est la... Oui, c'est ça, Zonon. Sœur de Bill Zonon, espoir pour les Huskies de Rouyn-Noranda dans la LHJMQ qui s'échappe et qui déculotte la gardienne mauricienne. C'était... en toute sincérité, un scénario assez improbable et qui m'a beaucoup fait penser à la finale du hockey masculin à laquelle on a assisté il y a quelques jours. Là, c'est un scénario assez similaire avec une équipe qui commence en force, une remontée, on s'en va en prolongation et le but gagnant est marqué sur une échappée, un tir au but. Donc, c'est quelques similarités ici. Donc, ça, c'est tout pour le premier match auquel Yannick et moi, on a assisté. Le deuxième était la première demi-finale de ce tournoi de hockey féminin dans le cadre des Jeux du Québec qui opposait l'Outaouais et Chaudière-Appalaches. Encore une fois, pour mettre un peu en contexte, Chaudière-Appalaches rentrait dans cette demi-finale ayant remporté son premier match de la compétition quand même 5-0 contre le Sud-Ouest en ayant perdu son deuxième 2-1 contre le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui a remporté son match de quart de finale contre Capitale-Nationale. Donc, c'était forgé une place en demi-finale. Pour ce qui est de l'Outaouais, Alex, est-ce que tu es prêt? Elle a remporté son premier match face à l'Abitibi-Témiscamingue 17-1.
Oh mon Dieu!
17-1. Pour des matchs qui durent probablement qu'eux autres duraient 45 minutes, là, donc 3 périodes de 15 minutes. 17-1, je n'ai jamais vu ça. Elles ont remporté leur deuxième match 7-1 contre l'Est du Québec et a remporté sa demi-finale 2-0 contre les Laurentides. Donc, on peut constater que ça semblait être un match avec deux équipes qui étaient assez bonnes défensivement, mais seulement une avec une attaque complètement dévastatrice. Et ben c'est exactement ça qu'on a eu, en fait. Dès le début du match, on voyait que ce serait un match vraiment à sens unique. L'Outaouais était partout sur la glace. Chaudière-Appalaches n'avait aucune réponse aux nombreuses attaques de leur adversaire. Et en moins de 5 minutes, ben, l'Outaouais menait déjà 2-0. Menait déjà 2-0. Un peu plus tard dans la première période, l'Outaouais se prend une pénalité. On se dit, bon, ça pourrait peut-être donner une chance à Chaudière-Appalaches de reprendre un peu de momentum, de peut-être marquer un but et de revenir dans ce match-là. Mais coup sur coup, Chaudière-Appalaches qui se prend 2 pénalités et instantanément se retrouve à 4-3 en faveur de l'Outaouais. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, évidemment que l'Outaouais les a fait payer et ont inscrit un troisième but à la fin de cette première période. L'histoire de la deuxième période, ça aura définitivement été la performance de la gardienne de Chaudière-Appalaches, Kellyanne Poulin, que j'ai envie de mentionner parce qu'elle a dû faire une quarantaine d'arrêts au cours du match. Et elle a tout fait pour garder son équipe dans le match avec bel arrêt après bel arrêt. Mais c'est vraiment dommage de voir que ses coéquipières n'ont pas fait grand-chose pour l'aider au niveau offensif. Je crois que les filles de Chaudière-Appalaches ont terminé le match avec même pas 10 tirs au but.
C'était vraiment pas... C'était quasiment pas la même game, là, rendu.
Ah, définitivement pas. Écoute, c'était vraiment à sens unique comme match. Vraiment pour un match de demi-finale.
En plus.
Il y a deux joueuses que j'aimerais mettre en lumière là, du côté de l'Outaouais. La première, c'est Pénélope Saint-Pierre. Et la deuxième, c'est Héloïse Gagné. Alors d'abord, Pénélope, qui était une joueuse très offensive, qui était de tous les bons coups offensifs de son équipe, honnêtement. Elle avait un tout petit gabarit là, qui lui permettait de se faufiler assez facilement entre les joueuses adverses, quand même avec aise. Honnêtement, on aurait dit Connor McDavid. Sérieusement, là, de la manière dont elle maniait la rondelle, dont elle était capable de battre de vitesse des défenseurs adverses. Je me souviens pas si elle a marqué un but, mais... énormément de passes décisives là, de sa part. Donc, une joueuse que je voulais définitivement mentionner et qui sera certainement à surveiller demain là, au cours de la finale. Et la deuxième joueuse, c'est Héloïse Gagné qui, elle, était plutôt du côté défensif, qui était un rock. Elle a probablement bloqué autant de tirs que sa gardienne. Performance défensive impériale, sérieusement, et elle a même été en mesure de trouver le fond du filet lors de la troisième période. Et parlant de cette troisième période-là, ben encore une fois, domination totale, et finalement, le match est terminé par la marque de 6-0. Sérieusement, Outaouais, performance énorme de la part de leur équipe au complet, et je souhaite bonne chance à l'équipe qui va les affronter en finale. Et parlant de ça, ben le dernier match auquel Yannick et moi avons pu assister, c'est la deuxième demi-finale qui opposait l'Estrie au Lac-Saint-Louis. Je t'ai mentionné tout de suite, malheureusement, nous avons dû partir avant la fin, avant la troisième période, étant donné qu'il fallait bien que je vienne à l'émission. Mais j'ai tout de même eu la chance d'avoir le score final pour ce match-là, donc je vais pouvoir vous le présenter à la fin. Mais tout d'abord, encore une fois, pour mettre un peu en contexte, alors l'Estrie qui rentrait dans cette compétition-là de hockey avec un seul objectif, puis c'est la médaille d'or. Cette équipe-là de jeunes filles avait décroché l'argent au dernier Jeux du Québec l'année passée à Rivière-du-Loup, et la plupart des mêmes joueuses de cette équipe sont présentes à cette édition aussi. Elles rentraient donc ici le couteau entre les dents avec leurs homologues masculins qui venaient d'obtenir la médaille d'or quelques jours auparavant.
C'est vrai.
Donc, leur objectif était clair. Et elles ont commencé le tournoi de brillante façon en remportant leur premier match 7-2 face à Montréal, comme on l'a mentionné tantôt. Et ensuite, deux matchs un peu plus compliqués, mais qui sont quand même tournés à l'avantage des Estriennes. Alors, 1-0 contre la capitale nationale et à nouveau 1-0 en quart de finale contre la Rive-Sud. Donc, des matchs à petit score, le plus petit score qu'on peut avoir, en fait. Mais ultimement, leur défense semble avoir été très solide et elles ont trouvé un moyen de remporter leur match. Du côté du Lac-Saint-Louis, une offensive un peu plus marquée là, de la part de cette équipe-là. Un 6-0 d'abord face à Richelieu-Yamaska, un 5-3 face à Laval, puis un 3-1 face à Lanaudière en quart de finale. On rentre dans le match entre l'Estrie et Lac-Saint-Louis, et c'est un match qui... Oui.
Ben écoute, je vais mettre ça sur pause.
Ah, okay.
Je laisse un petit suspense parce que justement, le score est rentré en plus en toute dernière heure, si on peut dire, parce qu'on va faire une courte pause et au retour, on revient avec le match de cet après-midi entre l'équipe de l'Estrie et de Lac-Saint-Louis.
Parfait.
Courte pause ici au 84... Ah, ça c'est drôle, j'ai fait de la radio ce matin et j'ai deux fréquences, mais là on est au 88.3, dis-je bien, ici à Sherbrooke, sur les ondes de CFAQ. C'est le récap des Jeux du Québec. C'est toujours le récap CFAQ des Jeux du Québec en ce... C'est-à-dire, cet avant-dernier jour, on avait un match cet après-midi qui opposait l'équipe de hockey féminine estrienne au Lac-Saint-Louis. Vincent, tu y étais.
J'y étais. Que pour les deux premières périodes.
C'est vrai. Pour les deux premières périodes, que s'est-il passé?
Oui, alors tout d'abord, ce qui est important de mentionner, c'est que ce match-là n'était certainement pas un Outaouais contre Chaudière-Appalaches 2.0. Mm-hmm. C'est un match qui était beaucoup plus serré. Dans mes notes, là, j'avais marqué « Peu importe qui passe, ce ne sera pas facile contre l'Outaouais. » Outaouais, comme je l'ai mentionné, qui a été vraiment impérial là, face à Chaudière-Appalaches. Mais non, c'est un match très, très, très serré, très physique aussi. Beaucoup de bonnes mises en échec. Beaucoup de jeux assez sournois. Pas mal de pénalités d'un côté comme de l'autre. Et relativement tôt dans le match... il s'agit du Lac-Saint-Louis qui a pris les devants. Un beau tir des poignets de l'enclave. La gardienne de l'Estrie n'y pouvait rien. Et la foule était vraiment en feu, là, je tiens à le mentionner. Pas qu'elle ne l'était pas non plus lors des deux premiers matchs, mais là, je veux dire, c'était l'Estrie qui jouait. C'est l'équipe locale. Il y avait une bonne partie de l'aréna qui était pour les fans de l'Estrie. Mais malgré tout, là, même Lac-Saint-Louis faisait pas mal de bruit. On avait des machines qui tournent, là, qui font du bruit. Il y avait même une mascotte qui était là.
C'est une place pour la finale en plus.
Et effectivement, donc l'ambiance était vraiment au rendez-vous, au même titre qu'elle l'a été pendant l'entièreté des compétitions de hockey au complexe Thibault-GM. Alors, mention spéciale à tous les partisans là, qui se sont déplacés pour encourager leur équipe. Là. C'était vraiment, vraiment beau à voir, surtout dans un contexte de jeu du Québec. Mais non, donc un match beaucoup plus physique, bonne mise en échec. Lac-Saint-Louis qui ouvre le score en première période. Et là, en deuxième période, il s'est passé quelque chose d'assez spécial. L'Estrie avait un avantage numérique. Tout d'un coup, cafouillage un peu devant le but de la gardienne de Lac-Saint-Louis.
Okay.
Yannick et moi, on était assis dans les estrades, on voyait pas trop ce qui se passait. À un moment donné, tu as l'arbitre qui siffle l'arrêt du jeu. Et là, il y a comme un genre de moment de silence. Les arbitres se consultent. Et un but a été accordé à l'Estrie.
Ah.
Je n'ai pas plus d'informations que ça, malheureusement. Il va falloir voir peut-être... j'imagine qu'il va y avoir des articles de journaux qui vont sortir dans les prochaines heures là, par rapport à ce match-là. Mais Yannick et moi, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Même les joueurs de l'Estrie ne semblaient pas avoir célébré sur la patinoire lorsque tout ça s'est passé. Et finalement, ben, un but a été accordé. On est passé à 1-1. Et voilà, honnêtement, c'est l'un des scénarios les plus étranges là, auxquels j'ai pu assister dans un match de hockey. Là. C'était vraiment, vraiment spécial. Mais non, l'Estrie qui a su créer l'égalité et pour, en deuxième période. Et pour le reste de la période, très serré encore une fois, très physique, de bonnes chances de part et d'autre. Les deux gardiennes qui restent très solides. En fait, ce que je dirais, c'est que la gardienne de l'Estrie faisait beaucoup de beaux arrêts. Sauf que... Mais du côté de l'Estrie, les filles étaient capables de se procurer de bonnes chances, mais très peu de tirs cadrés, malheureusement. Mais vraiment de bonnes chances et de part et d'autre. Et donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, malheureusement, Yannick et moi, nous avons dû quitter pour ne pas manquer l'émission. Mais finalement, le score a fini par rentrer sur le site des Jeux du Québec. J'essayais de le trouver sur RDS en web diffusion, mais il n'y avait absolument rien. Et malheureusement, c'est Lac-Saint-Louis qui l'a emporté 4-3. Ben, je dis malheureusement. Il faut quand même rester neutre, mais je veux dire, on vient de l'Estrie. Et connaissant aussi l'historique de cette équipe de hockey féminine-là, de l'Estrie, qui visait la médaille d'or, ben ça doit être assez crève-cœur. Là. Mais malheureusement, je n'ai pas plus d'informations que ça par rapport à la manière dont le score en est venu à être. Donc voilà. Mais Lac-Saint-Louis qui l'emporte 4-3. Ce qui signifie donc que la finale de bronze sera jouée demain matin à 8h entre Chaudière-Appalaches et l'Estrie. Alors que la finale pour l'or sera jouée demain également à 10h entre l'Outaouais et le Lac-Saint-Louis. Outaouais et Lac-Saint-Louis qui ont deux styles de jeu très différents. Lac-Saint-Louis, très robuste dans les coins de patinoire, très, je sais pas trop comment dire ça, mais scrappy devant le but.
Okay.
Et l'Outaouais, là, tout en finesse, tout en beau jeu, stratégique, positionnel, vraiment, vraiment du beau hockey. Donc, c'est une finale qui promet définitivement.
Ça finira peut-être pas à 17-0.
Ça devrait pas.
Ça devrait pas. De toute façon, c'était déjà très compétitif pour la demi-finale. Donc, reste à voir quand même. Ce sera demain matin. Je pense que tu y allais aussi.
Oui,
si
je serai présent pour ces deux matchs-là. Ça va me faire plaisir de vous faire un topo par la suite. Malheureusement, je ne serai pas en studio demain. J'ai d'autres occupations professionnelles, ce qui voilà. Mais il me fera plaisir là, de couvrir ces matchs-là pour vous et de vous envoyer l'extrait par la suite pour qu'il soit diffusé demain soir.
Parfait. Donc, on découvrira ça demain soir. Et sinon, rapidement, au tableau des médailles, si on va faire un petit tour... comme on le disait hier, ça se poursuit pour la Rive-Sud. Au global, au cumulatif, c'est 74 médailles pour la Rive-Sud seulement, 23 d'or, 22 d'argent, 29 de bronze. Si on regarde le nombre de médailles d'or cette fois-ci, c'est 24 pour les Laurentides. Encore une fois, l'haltérophilie où ils ont fait le plein, c'est sûr qu'on part grand favori. En deuxième position, c'est la Rive-Sud et en troisième, c'est Montréal. L'Estrie fait quand même très bonne figure avec 9 médailles d'or, 9 d'argent et 10 de bronze pour un cumulatif de 28. Donc, ça va très, très bien. Demain, les dernières compétitions à l'horaire. Ben, on l'a dit, le hockey féminin sera joué demain matin. Les deux derniers matchs, le curling féminin et masculin également aura sa finale. Et quelques épreuves de plongeon également seront disputées. C'est là-dessus que ça se termine déjà pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À nouveau ce soir, Jacob, merci d'avoir été là.
Jacob.
Ah, Caroline. Je ne sais pas pourquoi.
Je crois pas qu'il nous ait envoyé un enregistrement de lui.
De remerciement. Ça aurait été le fun, mais malheureusement, on n'a pas d'extrait. Donc, Vincent, merci beaucoup d'avoir été là ce soir.
Merci beaucoup à toi, Alex, comme toujours.
On salue Jacob, Simon et Yannick qui étaient également de la partie. On se donne rendez-vous demain soir pour l'ultime jour des Jeux du Québec avec les derniers résumés des épreuves On fera certainement un bilan des meilleurs moments avec nos journalistes. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute à nouveau ce soir. On se donne rendez-vous demain. Alex Bergeron qui était avec vous pour 7 heures sportives. Restez bien branchés sur les ondes de CFAQ 88.3.